Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, première saison, épisode 38 et le tout dernier épisode de cette saison. Mais grâce à votre fidélité, nous reviendrons dès le 29 août. Soyez donc maintes fois remerciés de nous avoir suivis. Une Heure en Série, l'émission qui, une fois encore, décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues. Et ce soir, nous parlerons cour royale russe et complot régicide avec The Great sur Starzplay, meurtres en forêt et fantômes du passé avec Dans les bois sur Netflix et Bac dentaire et obsession du dépucelage dans Pen 15 sur Canal+.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et je peux vous dire que ça leur a parlé, Bac dentaire et obsession du dépucelage. Je sens qu'il y a plein de souvenirs qui sont revenus en rafale comme ça dans la tête de nos chroniqueurs qui sont avec nous ce soir depuis le théâtre de l'Alliance française où nous enregistrons cette émission. Alors il m'a interdit la semaine dernière de faire allusion à son sex appeal, donc ce soir avec nous le très fade Benoît Lagarde, que l'on peut retrouver dans le 5-7 de Mathilde Munoz et Télématin. Si vous avez
Bonsoir.
Envie de dormir un peu plus, voilà.
Bonsoir à toutes et à tous.
Merci Benoît de
avec ma voix suave.
Ariane Allard, dite la cumularde, Cosette, positif, French Mania, elle fait tout, c'est le mini-mire de la critique cinématographique.
Je suis une fille très soigneuse en
absolument, effet. Bonsoir.
Bonsoir Xavier.
Et Ava Kahn de French Mania, dont vous êtes la rédactrice en chef. Alors rappelons que le numéro 1 de cette revue sortira en librairie en septembre, qu'on y parlera ciné et série et que vous lancez une campagne de préabonnement cet été pour ceux qui veulent d'ores et déjà vous soutenir. Du coup, dites-nous en deux mots, Ava, comment faire ?
Eh ben, c'est tout simple. Faut se connecter www.frenchmania.fr. Il y aura toutes les infos dessus. On va lancer la campagne le 29 juin.
On y va, évidemment. Je vais référer ce que vous avez donné, les autres. Hein. C'est ça.
Ouais, on nous paye ?
La grande solidarité de l'émission, bien sûr.
Merci,
ah bon ? On commence tout de suite avec The Great, une série américaine de 10 épisodes disponible depuis le 18 juin sur Starzplay, une plateforme qui nous a régulièrement offert cette année de belles pépites, parmi lesquelles Rami ou encore Pennyworth. Les jeunes années d'une impératrice pas comme les autres dans la Russie du XVIIIe siècle. Catherine n'a que 16 ans lorsqu'elle arrive à la cour de l'empereur Pierre III dans le but de l'épouser à la suite d'un mariage arrangé. Quelle n'est pas sa cruelle déception lorsqu'elle découvre que l'homme dont elle doit devenir l'épouse et l'amante est un adolescent immature dont la principale préoccupation est de soulever tous les jupons qui croisent son chemin. Et encore le fait-il à sa manière bourrine et animale, sans se soucier un seul instant du plaisir de sa partenaire. Ce qui va vite décevoir la douce Catherine, un petit tyran sans grande envergure ni intelligence, jouissant du pouvoir autocrate qu'il exerce à l'encontre de ses sujets. Éprise de progrès social et culturel, enfin dans les limites évidemment de l'époque, celle qui deviendra plus tard la grande Catherine envisage très vite de se débarrasser de l'encombrant imbécile afin de faire souffler un vent de liberté et de lumière sur la cour, quitte à se mettre à dos le clergé et l'armée.
A toast to my new wife, the Empress of Russia.
Huzzah! It is...
No, you don't talk, my love.
Oh, of course. It must be an enormous responsibility and honor to lead a country of such import.
It's actually not that hard.
I'm happy to hear anyone's problems with me. Don't worry about the bodies.
I would like to be useful to Russia, to help its greatness.
You will bear my heirs. There is no higher use.
Rabbit!
These sticks are to enhance your fertility, but I cannot work out whether we wave them over your womb or insert them into you. I'm pretty sure it's a wave them situation.
Voilà exactement l'autorité qu'il me manque dans cette émission. C'est non, vous ne parlez pas, ma chère. Et je vais peut-être essayer ce jour de faire du Pierre de Russie, une sorte de préquel donc de la série Catherine the Great dont nous avions parlé en ce début d'année avec l'immense Hélène Mirren, mais le rapprochement s'arrête là. Ouais. Écrit par le scénariste Tony McNamara, nommé aux Oscars pour le meilleur scénario original pour le film La Favorite de Yorgos Lanthimos, The Great est produite par la chaîne Hulu, s'aventure sur le terrain de la satire historique avec un ton acerbe et caustique qui effraiera sans doute les historiens rigoristes mais qui devrait ravir les téléspectateurs appréciant comme moi l'humour vachard et fielleux. Un casting sans faute pour accompagner cette série acide où l'on retrouve Elle Fanning qui joue enfin, qui a joué récemment dans Un jour sans pluie de New York de Woody Allen et puis dans la franchise Maléfique ainsi que dans The Lost Room à la télévision à ses côtés. Nicolas Hoult vu récemment dans Tolkien et la franchise X-Men sans oublier mon chouchou du moment Sacha Dovan vu cette année dans Dracula et surtout dans le rôle du maître, du master, l'ennemi juré du Dr. Who qu'il campait magistralement lors de la dernière saison disponible disponible d'ailleurs sur France TV. Pour la presse, le site Cinéréflex parle d'une vraie pépite de comédie portée par un duo magistral. Déception en revanche pour le JDD qui lui reproche un rythme académique. Ava. Oui, on est d'accord, vous avez gonflé les joues, ce qui n'est pas très radiophonique.
Mais... Non, pas très.
Le rythme
mais c'est significatif. C'est... Non, mais moi, je me suis régalée du premier au dernier épisode. Le fond satirique de la série est inépuisable. C'est drôle, c'est insolent. On retrouve bien la causticité de la favorite de Lanthimos et le côté pop de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, même si c'est moins rond, moins bonbon. C'est très bien écrit. Les intrigues de cour et de chambre sont passionnantes à suivre. Chaque épisode se conclut sur un regard caméra qui nous pénètre et qui nous provoque aussi. Comme les choix de morceaux de rock qui concluent les épisodes de Patti Smith et compagnie. La séquence d'ouverture est géniale. On voit deux jeunes filles en fleurs en train de faire de la balançoire. Parmi elles, Catherine, qui annonce à sa meilleure amie son ascension sociale, son mariage prochain avec l'empereur de Russie. Et on voit sa mine réjouie. Et très vite, bah, sa mine va changer de couleur, hein, dès lors que Catherine fait son entrée dans le nouveau monde. Et elle comprend très vite qu'il va falloir batailler pour survivre, avoir un plan, avoir des alliés, si elle veut un jour pouvoir parler avec toutes et tous du contrat social de Rousseau et des essais de Descartes qu'elle a rencontrés, dont elle aime les idées et le parfum de fromage qui se dégage de lui. Hein, c'est elle qui le dit. Une jeune femme qui a des lettres et des manières, qui débarquent donc chez les rustres qui interdisent aux femmes de lire, qui se battent, qui chassent, qui humilient leurs domestiques. Le choc des cultures est immense et ça fait mouche. L'interprétation des comédiens et comédiennes participe évidemment à mon engouement pour la série. Elle Fanning d'abord, qui est vraiment une grande comédienne de série comique aussi, enfin voilà, de comédie. Elle le confirme après sa réjouissante performance keatonienne dans Un jour de pluie à New York, pardon Xavier. Son personnage est complexe, candide et solide à la fois, très loin de la princesse Disney qu'elle a campée dans la belle au bois dormant. Voilà, elle est souveraine, elle est épouse, elle est maîtresse, elle est stratège, elle est combattante. Et Nicolas Soult est remarquable aussi, lui, dans le rôle du jeune empereur, qui n'est pas que détestable. Hein. Il a par exemple un fin palais, miam, les brouillades d'œufs à la truffe au petit déjeuner, mais c'est aussi un misogyne congénital. Ce n'est qu'une femme faible d'esprit, mais à la poitrine ferme, ne la jugez pas trop sévèrement, dit-il à sa tante. Voilà, c'est un fascinant récit de la déconstruction du patriarcat, des privilèges, de l'émancipation des femmes conduites par Catherine et Ouza. Voilà.
Très bien, Benoît, est-ce que cette incursion dans la cour royale de Russie avec crinoline et effectivement un but de costume et de décor vous a séduit ?
Oui, ça m'a plutôt séduit, c'est intriguant, c'est assez étonnant, je suis d'accord avec ce qu'Ava vient de dire à l'instant, d'autant plus que dans les séries historiques, c'est vrai que on revient de loin. Si vous supportiez plus les Tudors, les Versailles, ce genre de séries, alors allez voir The Great, parce que là vous allez être servi. Certes, historiquement, ça dit un peu n'importe quoi, ça part dans toutes les directions, mais au fond, c'est pas très grave, parce que ce qui est très juste dans la série, c'est de raconter comment ce personnage vit cette obligation sociale, en fait, de changer de statut et de devoir s'imposer. Et puis, on avait vu effectivement la série avec Hélène Mirren, qui était grandiloquente, qui était une sorte de Sissi pour HBO, où Hélène Mirren regardait Hélène Mirren faire du Hélène Mirren. Et là, Elle Fanning, c'est pas du tout ça. Elle est vraiment, finalement, cette Catherine, aussi fantasque soit-elle, on y croit. C'est ça la force de ces séries historiques, c'est de nous faire croire aux personnages. Alors c'est très drôle effectivement, mais moi là où ça m'a le plus touché, c'est dans les moments où c'est plus drôle, parce que là le personnage vraiment devient très juste, très fin, on s'attache vraiment à eux. Et puis heureusement, on a les scènes de chasse par exemple pour nous amuser. Non, c'est vraiment très réussi et on passe effectivement un bon moment dans cet univers.
Ariane, cette jeune reine féministe avant l'heure.
Oui,
vous
c'est
a... Non, vous ne parlez pas, ma chère. Merci.
Merci, Xavier. C'est pas très féministe que vous venez de faire.
J'ai jamais dit que j'étais. Allez, à vous.
Non, moi, c'est curieux que vous compariez avec la série avec Hélène Mirren, parce que Hélène Mirren, c'était la version crépusculaire, en fait, du destin de Catherine II.
Alors elle s'était débarrassée de Pierre. Enfin, voilà, elle avait fait le ménage.
Était, même si on avait beaucoup, beaucoup maquillé l'actrice que j'adore par ailleurs, c'est quand même une dame qui a plus de 70 ans. Là, c'est tout le contraire. C'est la version lumineuse, ascensionnelle. Moi, ce qui m'a plu, en fait, dans la série, c'est que c'est quand même juste l'histoire d'une révolte. Et que donc, bien sûr qu'il y a une dynamique très forte tout le long. Alors, en plus, il y a ce côté, effectivement, copolesque. Je trouve que c'est un petit peu cosmétique, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a beaucoup de rubans, il y a beaucoup de perruques, et il y a quelques macarons aussi. L'épisode avec les macarons est assez drôle. Donc, je dirais que c'est un petit peu moins féroce quand même que La Favorite, hein, bien que ce soit quand même le scénario de La Favorite qui est écrit la série. Mais moi, ce que j'aime, je suis comme Ava, c'est que je trouve que c'est un personnage qui est assez génial parce qu'il est très complexe, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois candide et rusé. C'est à la fois une élève et un professeur puisqu'elle enseigne à un jeune page à lire. Elle est à la fois diplomate et guerrière. Ils ont déjà, moi, ce genre de personnage leader dans une série, il y en a assez peu. Et puis à ce côté, ben bien sûr, voilà, c'est une révolte. Donc c'est moi j'aime cette dynamique et cette force et cette puissance là.
Voilà, nous venons d'évoquer The Great sur Starzplay avec, je dois le reconnaître, enfin Elle Fanning dans un très bon rôle, digne de ce talent que je ne lui trouvais pas jusqu'alors.
Ça reste juste dans ma tête, ou toi aussi, c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est belle. J'y ai pensé en boucle, je te veux. Je me le cachais sans doute, je te veux. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste. Parfois, je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais. Je vais te le cacher sans doute, tu me plais. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. J'ai peur d'être à deux. J'ai peur de te regarder. Et encore plus dans les yeux. Et cela je les évite. Ce regard qui m'invite. Même si au fond de moi j'hésite. Je brûle d'envie. Que tu me regardes. Tu me regardes. Que tu
Angèle, tu me regardes. La chanteuse belge a choisi ce nouveau single issu de la réédition de son album Brawl. Comme précédemment dans Tarange, Angèle évoque ici une relation entre deux femmes et les regards que les autres peuvent jeter sur ce genre de relation homosexuelle. Continuité musicale de son coming out effectué il y a quelques mois. Respect.
France Inter. Série.
Pour notre deuxième débat, nous allons discuter de Dans les Bois, série policière polonaise de 6 épisodes disponible sur Netflix. Nous sommes en 1994 en Pologne. Le premier acte de cette tragédie qui en comptera deux nous plonge dans une colonie de vacances pour ados où tout n'est que séduction et premier baiser jusqu'au jour où le tableau idyllique de ces vacances en pleine nature sauvage vire au cauchemar. Quatre adolescents disparaissent, seuls deux corps mutilés sont retrouvés. Les deux autres restent introuvables, dont celui de la sœur du héros, Pavel. Très vite, les soupçons se tournent vers le directeur de la colonie, coupable idéal puisque de confession juive, ce qui exacerbe un fort relent d'antisémitisme très ancré dans la société polonaise de cette époque. La Jvaleza est à la tête du pays depuis 4 ans. Cette affaire laissera ce directeur de colonie vacances entièrement ruiné. Deuxième acte de nos jours, Pavel est devenu procureur et enquête sur une très médiatique affaire de viol. On vient le chercher pour identifier le corps d'un adulte que la police vient de retrouver et qui avait sur lui les pièces à conviction désignant Pavel. Ce dernier est convaincu alors qu'il s'agit de l'un des deux disparus du drame d'autrefois. Si ce dernier a pu échapper au massacre, sa sœur serait-elle encore vivante ?
Je voudrais que vous me racontiez encore ce qui s'est passé cette nuit-là. Le camp où j'étais animateur junior s'est terminé de façon tragique. Quatre jeunes sont entrés dans les bois et n'en sont jamais revenus. Deux corps ont été retrouvés assez rapidement.
Les enfants !
Et les deux autres, y compris le corps de ma sœur, n'ont jamais été retrouvés. Des ossements humains ont été retrouvés dans le bois où ma sœur a disparu. Je suis sûr que ma sœur n'est pas morte dans ces bois.
Camilla est vivante. Je le sens.
Je la retrouverai. Tout le monde cache des cadavres dans son placard. Je veux savoir ce qui s'est passé dans ces bois.
Des bois épais, un passé qui vous hante, l'espoir irraisonné de retrouver une proche que l'on croyait disparue à jamais. On retrouve là toutes les thématiques chères à Harlan Coben, l'auteur de romans policiers à succès et dont les adaptations au cinéma, comme Ne le dit à personne, par exemple, de Guillaume Canet, ou pour le petit écran, parmi lesquels Une chance de trop avec Alexandra Lamy, ont conquis le public. On lui doit également quelques scripts inédits pour le petit écran, tels que Five, ou encore Safe avec Michael C. Hall, fort sollicité par les chaînes de télé. C'est Netflix qui rafle la mise en 2018, puisque Harlan Coben signe avec la plateforme un accord pour l'adaptation de 14 de ses romans. On n'a pas fini d'en bouffer. Ce qui nous a déjà valu en ce début de saison la série britannique Intimidation. Cette fois, c'est donc les Polonais qui se collent à la transposition de l'univers anxiogène et obsessionnel de Coben avec cette adaptation du roman éponyme paru en France aux éditions Belfond. Une série signée Agata Malizinska et Wojciech Milosewski. Pour Le Parisien, c'est captivant. Pour GQ Magazine, c'est une adaptation réussie et particulièrement flippante. J'ai comme l'impression que vous n'allez pas toutes ou tous être franchement d'accord avec ces deux avis. Benoît, dégainez en premier.
Alors moi, je suis assez partagé. Si on doit réagir sur le flippant, non. Voilà. En fait, la série se décompose en trois, ambiances. Il y a l'ambiance dans le camp, donc en 94. Il y a l'ambiance la nuit dans le bois au moment où se passent ces meurtres. Et puis aujourd'hui. Finalement, un élément intéressant, c'est que quand on est aujourd'hui, on est beaucoup plus gris et beaucoup plus lumineux que quand on est en 94. Alors, faut-il y voir un message politique ? On est en 94. On sortait du communisme. Il y a une certaine liberté. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous raconter à travers ces choix colorimétrique, peut-être, mais la série ne va pas plus loin que ça, donc finalement on abandonne cette hypothèse. La nuit, le soir, dans les bois, est-ce que c'est pour nous faire peur ? Ben, on n'a pas peur du tout, on a beau nous mettre de la musique et des ambiances, franchement, on flippe pas. Revoyez The Outsider, la série adaptée de Stephen King, où là on flippait dans ces ambiances un petit peu, là c'est pas du tout le cas. Après, esthétiquement, on va dire que c'est de bonne facture, même si parfois on aurait envie que le réalisateur on lui dise de se calmer un petit peu sur les fait, hein, on n'est pas obligé d'en mettre des tonnes. Alors il y a ce que vous évoquiez, la question de l'antisémitisme qui est traitée de façon frontale, et c'est plutôt intéressant, venu d'une série polonaise qui nous montre vraiment ce que c'est que l'antisémitisme en Pologne.
Elle est dans le roman mais pas à cette place-là. Voilà. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir insisté effectivement là-dessus au moment de la dramaturgie de la série.
Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, mais après c'est vrai, on aurait aimé peut-être que ça nous raconte plus. Au final, on finit par voir une série somme toute assez classique, un thriller assez classique dans le genre, alors que ça pousse comme ça des petites portes qui auraient pu être intéressantes sur justement est-ce que la Pologne d'aujourd'hui n'est pas plus sombre et pluvieuse que finalement la Pologne de 94. C'est une question que pose en creux cette série et elle n'y répond jamais.
Elle remonte ses manches et je pense que voilà, elle va être plutôt sévère. Chère Ariane,
oui.
Dans les bois.
Alors Benoît dit que c'est classique, moi j'ai trouvé que c'était très formaté et j'ai surtout été assez vite interloquée. Et puis assez vite même ébahie par la représentation des femmes dans cette série, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, évidemment, ça compte beaucoup.
Citons France Gall.
Voilà, citons France Gall. Parce qu'évidemment, qui dit représentation dit idéologie. Et je trouve que par rapport à ça, le message que transmet la série est quand même très ambigu. Je vous donne quelques exemples de femmes. Donc, il y a une mère femme battue qui disparaît, qui part sans se retourner. Et pendant toute la série, en tout cas pendant 5 épisodes et demi, on nous dit qu'elle a abandonné ses enfants avec ses mâles. Bon, bien sûr, il y a un dénouement qui contredit un peu ça. Je ne vous le dévoile pas. Il y a une sœur qui disparaît sans laisser d'adresse. Il y a une jeune fille violée. Il y a une jeune fille harcelée par ses voisins antisémites. Parce que contrairement au livre où c'était un homme, là, c'est de la jeune fille essentiellement qui est harcelée. Voilà. Et il y a une charmante quadra qui est hantée par son passé, mais qui donc se fait réconforter par le doyen de la fac, donc un homme plus âgé, protecteur, bienveillant, puissant, blablabla, blablabla. C'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire c'est un catalogue de figures féminines qui sont soit défaillantes, soit malmenées, et de toute façon passives. D'ailleurs, elles sont souvent filmées en arrière-plan, flouté, et c'est l'homme qui parle et qui est devant, qui prend la parole. Moi, ça m'intéresse hein, que ça existe, parce que ça se passe aussi bien d'ailleurs dans le récit de 2019 que dans celui de 94. Le problème, c'est qu'il y a une telle accumulation, une telle surenchère et aussi une telle esthétisation. J'ai eu un doute tout à coup, hein, par rapport notamment à la façon dont ils filment les garçons et dont ils filment les filles ados du camp. C'est-à-dire que les garçons en général sont filmés dans l'action, ils jouent au foot, etc. Les filles, elles sont sur le banc de touche ou quand ils sont en train de se baigner, de plonger, de se bagarrer, parce que les garçons sont taquins, dans le lac, les filles sont sur la berge en train de prendre des photos. Elles sont toujours en retrait, toujours en train de regarder et d'être spectatrices. Et moi, il y a un moment donné où je me dis que non, ça ne dénonce pas, non, ça ne démonte pas ces stéréotypes, ça les valide. Et donc, personnellement, je trouve que c'est pas du tout une promenade à envisager, que l'on soit auditrice ou auditeur.
Chère Ava, allez-vous porter le coup de grâce?
Non, mais je donne assez raison à Ariane, c'est vrai. On s'attendait peut-être à ce que la série fasse la critique à un endroit de ce système judiciaire ou même de cette société partiale, machiste, dont Pavel, finalement, est quand même l'héritier. Hein, donc, voilà. Ça m'est tombé des yeux, vraiment. Non pas que la série soit de mauvaise qualité, mais j'ai eu le sentiment d'avoir déjà vu ça, le cadre forestier, une colonie de vacances qui vire à la catastrophe. Alors, je préfère quand ça se passe dans les années 80 chez Ryan Murphy, mais ça, c'est très personnel. Des disparitions mystérieuses, des assassinats, une enquête qui en éclaire une autre, qui fait sans trop choquer des époques, un héros hanté par ses souvenirs, des revolvers, des flashbacks, du chantage, des pressions, des scandales, une intrigue antisémite. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Et qui a vu quoi, qui a fait quoi? Donc, on va essayer de le comprendre avec le héros, Pavel, donc, qui est procureur et qu'on découvre en très mauvaise posture, quand même, à l'ouverture du premier épisode. Et on va remonter le fil du temps, déterrer des corps, des secrets, et ces révélations, bien sûr, vont bouleverser la vie des protagonistes. Donc voilà, rien de nouveau sur le soleil, c'est soigné, les acteurs sont bons, la caméra aime d'ailleurs les saisir en gros plan pour mieux scruter les émotions et les tensions, il y a une ambiance, et comme le héros, le récit est brisé, voilà, en morceaux, mais cette formule puzzle, elle n'a pas le caractère addictif, en fait, voilà, c'est ce que tu disais, Benoît, escompté, et voilà, c'est plus contemplatif qu'haletant, c'est un peu le syndrome de la série vite vu, vite oublié.
C'était Dans les bois sur Netflix et je crois que nous n'irons pas dans les bois, donc si j'ai bien compris à demi-mot vos arguments, vous signalez donc que c'est adapté d'un roman d'Arlan Coben et que son dernier roman, Ne t'enfuis plus, est sorti juste avant le confinement aux éditions Bellefond. Too late and there's no cure, no sedating all this pain we're generating, this prolonged insane grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. And dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed. I'm Lost Horse de Asaf Avidan, extrait du prochain album de cet auteur, compositeur, interprète israélien, qui sortira en septembre, un titre où il évoque la perte de sa jument. Bon, d'accord, on trouve l'inspiration où l'on peut, mais trêve d'ironie, non, ne riez pas, c'est poignant, c'est sensible. Et là, je parle franchement, vous avez tous adoré le titre pendant qu'il était diffusé, à l'image de l'album à venir, où l'artiste fraîchement cadra fait un premier bilan de sa vie et de son parcours. Il n'a pas fini.
France Inter. Une heure en série.
Quelques petits conseils littéraires pour l'été. Trois livres à découvrir pour profiter pleinement des vacances et de la réouverture des librairies. Surtout et d'abord un classique, Watership Down, qui ressort dans une superbe édition de poche chez Monsieur Toussaint. L'ouverture, vous connaissez Watership Down?
Non.
Vous allez, dans quelques instants, publier discrètement en 1972 ce roman désormais ô combien culte de Richard Adams. C'est vendu à ce jour à plus de 53 millions d'exemplaires, a été traduit dans plus de 25 langues et figure dans la prestigieuse liste des 100 meilleurs romans de tous les temps de la BBC. Un roman épique et écologique où un jeune lapin doté de dons de voyance voit la destruction imminente de sa tribu. Il décide alors de les sauver, de leur trouver un nouveau refuge. Début d'une épopée chevaleresque portée par une prose flamboyante d'aventure narrative et stylistique. En gros, c'est Un Seigneur des Anneaux version Lapin de Garenne qui fut adapté récemment en série animée et animalière de 4 épisodes que vous pouvez d'ailleurs toujours voir sur Netflix. Un petit polar, histoire de contrebalancer quand même la canicule qu'on nous annonce, voilà, absolument. Et petit coup de cœur, grand coup de cœur même pour Le jour où Kennedy n'est pas mort par R.J. Ellery chez Sonatine. 22 novembre 1962, la voiture qui convoie JF Kennedy et son épouse Jackie traverse sans encombre les rues de Dallas. L'assassinat n'a pas eu lieu. En revanche, quelques jours plus tard, on retrouve le corps sans vie d'une jeune journaliste d'investigation qui enquêtait d'un peu trop près sur la famille Kennedy. La police conclut un suicide. Peu convaincu par cette thèse, son ex-petite amie, dont la victime était séparée depuis longtemps, mène l'enquête et va découvrir l'envers peu amène du décor de la plus célèbre famille de politiciens de l'Amérique du XXe siècle. Un mélange prenant, coupant comme une lame de rasoir et sont très inquiétants entre l'Uchronie historique et le polar politique. Et cerise sur le gâteau, signé par l'une des plus grandes plumes du polar actuel, auteur entre autres, toujours chez Sonatine, des Anonymes et des Neuf Cercles. Ariane, vous l'avez lu, je crois?
Oui, et je confirme, Xavier, c'est tout à fait excellent. Très belle chronique par ailleurs.
Eh ben, nous vous retrouvons l'année prochaine. Voilà, vous avez gagné votre place. Et on termine par un petit essai. L'Angleterre en série. Alors ça, je vous le recommande si vous n'avez pas lu.
Très bien.
Benoît. Oui. Parfait, très bien. Donc tout est dit, tout est fait. Un livre passionnant paru chez First Edition, signé Ioannis Deroïde et illustré par Boris Zaillon. L'idée directrice et force agace de ce livre est d'analyser la manière dont l'histoire du XXe siècle de l'Angleterre a été racontée à travers trois séries britanniques qu'on adore. The Crown, Downton Abbey et Peaky Blinders, of course. Voilà, le souverain dans les séries, le siècle d'une société en mouvement ou encore la porosité des classes sociales, effectivement, c'est des sujets qui sont traités par ces trois séries, qui sont autant de chapitres et de pistes d'analyse argumentées, érudites et fort pertinentes. On vous le recommande tous chaudement.
Et l'auteur est un grand spécialiste des séries historiques, donc vraiment, on peut lui faire confiance, c'est magnifiquement bien.
Et on retrouve tous ses conseils, bien sûr, sur le site de l'émission, ainsi que le reste de l'émission et toutes les interventions fort pertinentes de mes petits camarades. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter avec ce soir Ariane Allard, Ava Kahn et Benoît Lagan. Alors, troisième et dernier débat pour aujourd'hui, Pen 15. Alors, si vous voulez comprendre le titre, écrivez-le. Voilà. Et vous verrez peut-être que apparaîtra derrière Pen 15 un autre mot qui désigne l'entrejambe des garçons, on va dire. Voilà. Elle est diffusée donc sur Canal Plus Série. Bah oui, il y a un moment, il faut dire les choses. Retour vers le futur, cette sitcom mordante et décalée au féminin nous replonge au début des années 2000 à une époque où le stylo bille à paillettes fait fureur et où on croyait que Josh Hartnett serait une star du cinéma, comme quoi, hein, rien ne dure. Maya et Anna ont 13 ans et sont les meilleures amies du monde. Elles jouent encore à la poupée, elles passent leur temps pendues au téléphone à s'échanger de profondes idées sur le monde qui les entoure. Et surtout, elles s'apprêtent à rentrer en cinquième, une année charnière où c'est sûr, elles vont enfin tomber amoureuses. Enfin, du moins, l'espère-t-elle, car évidemment, rien ne va se dérouler comme prévu. Et que le lycée, surtout à cet âge, est une jungle hostile, certes pleine de beaux garçons boutonneux, mais surtout de rivalité et de jalousie, on s'en souvient tous.
Judy, get off AOL!
I feel like we should make a pact.
Let's, like, do everything together.
Yeah, no doubt, like, all our first together, like our first kiss.
Hey, Anna, did you...
No!
I was just looking for my disc, man.
No!
You're 13, and you're still playing with dolls?
How dare you do this to me, bitch?
Alex broke up with Heather.
It's happening.
I guess he, like, loves me or whatever.
I'm really, 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 really sorry.
Créé par le duo Anna Kankel qu'on a vu dans Rosewood et Maya Erskine que l'on a vu dans la série Casual, deux trentenaires qui interprètent ici les deux rôles principaux et fort autobiographiques de ces jeunes filles qui ont quand même la moitié de leur âge, on peut le dire, un décalage tout en autodérision assez poilant qui semble beaucoup les amuser et qui fait partie pour moi des nombreuses qualités de cette sitcom. En plus de trouvailles scénaristiques comme le recours à des sous-titres pour extérioriser leurs pensées intimes. Pour la presse, surtout pour les Arocs, c'est une série bourrée d'idées étonnantes qui fait revivre toutes les sensations corporelles et psychique de cet âge ingrat. Allez, petit effort de mémoire, Ariane, ça vous rappelle quelque chose quand même?
Ben écoutez, j'ai eu l'impression
de... Je suis dégueulasse.
Non, mais c'est juste parce que j'ai eu quelques flashbacks quand même en regardant cette série. Donc c'est terrible. Et voilà, mais c'est les années collège, c'est-à-dire c'est bienvenue dans l'âge ingrat, hein, tout simplement. Alors, moi, je dois dire que j'ai été totalement épatée par la série. Et pourtant, en toute honnêteté, le premier épisode m'a laissée un peu perplexe. Je suppose que c'est parce que d'abord, je trouve que les deux comédiennes au départ, hein, puisque on n'a aucune explication, hein. On pénètre dedans directement et on ne cherche absolument pas à nous expliquer, comme dans Camille Renoux, par exemple, le film de Doemilovski, pourquoi ces femmes de 30 ans se retrouvent avec surtout tous les autres acteurs ont 13 ans. Il y a qu'elles qui ont 30 ans. Voilà. Bon. Mais une fois qu'on a accepté ce décalage absurde, improbable et très bizarre, je trouve que tout d'un coup, il y a quelque chose. D'ailleurs, la montée en puissance de la série est formidable. Elle est lente, précise et incroyablement convaincante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté ça, on se rend compte qu'en fait, ce décalage est extrêmement pertinent, parce que ça raconte quoi ? Ça raconte de manière très incarnée l'impression de malaise propre à ces années collège, c'est-à-dire où chacun cherche son corps, jamais tout à fait raccord, et où surtout où chacun cherche sa place, quoi. Et se trouve totalement déplacé tout le temps. Donc, au-delà de la drôlerie de la situation, moi, je trouve que c'est super malin. Et c'est d'autant plus malin qu'Anna et Maya, en fait, sont les deux bolosses, bien sûr, du collège. C'est-à-dire qu'elles sont doublement déplacées de toute façon. Et l'autre raison pour laquelle, moi, je trouve cette série très fine et vraiment très bien écrite, c'est que ça nous raconte quoi? Ça nous raconte quand même une amitié absolument exceptionnelle. Et c'est vrai que pendant ces années collège, chez les filles, je ne sais pas chez les garçons si c'est pareil, mais l'amitié, c'est l'amitié rempart contre le monde entier. C'est l'amitié fusion. Ça peut être aussi l'amitié boulée, dont on a un peu du mal à s'émanciper. Et toutes les nuances de cette amitié incroyable entre ces deux filles, eh ben, elles sont évoquées. Et c'est là qu'on voit la force de l'écriture. Il y a d'autres thèmes qui sont évoqués. J'ai laissé mes camarades en parler, notamment le racisme, notamment le harcèlement. Parce que c'est pas marrant d'avoir 13 ans, hein. Franchement, c'est ce qu'elles nous racontent. Mais je trouve que c'est une grande finesse. Et pour moi, c'est vraiment la série pas pareille de la semaine que je recommande grandement.
Ava.
Bon, je suis complètement d'accord avec Ariane. C'est vrai que ces héroïnes, on les adore autant qu'elles nous fatiguent. Enfin, ouais. Il y a quand même ce rapport-là. Elles sont très ingrates
et
en même temps,
quand même, ouais, hein,
elles sont survoltées.
Elles sont ingrates et en même temps, elles sont belles, elles sont singulières. Et comme toi, ce qui me touche vraiment, c'est le caractère indéfectible de leur amitié. Leur complicité est vraiment très belle et elles vont même dans un épisode jusqu'à se couvrir pour un vol de string rose et se l'échanger après l'avoir chacune lavé. Si c'est pas ça l'amitié, hein, voilà. Donc voilà, ça m'a plu. Même si je suis quand même pas complètement emballée. Enfin. Pas autant que j'aurais voulu l'être, alors qu'il y a à peu près tout ce que j'aime dans une série sitcom de ce genre, du kitsch, du non-sens, des références à Buffy, à Ace Ventura, à Sailor Moon, aux Spice Girls, à Sex Crimes, toute mon adolescence en quelques titres. Mais voilà, à mesure des épisodes, je trouve qu'on se lasse un peu, le fun et la surprise s'atténuent, même si chaque épisode a son moment de bravoure, hein, je suis bien d'accord sur ça. Donc voilà, c'est vraiment une comédie sur les années collège. Pourquoi l'âge ingrat ? Ça s'appelle l'âge ingrat, on y est, quoi.
Benoît, bon, vous êtes moins la cible, on va dire. Vous n'êtes pas tout à fait identifié par les deux personnages principaux, mais néanmoins, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Oui, et j'ai plutôt apprécié d'abord parce que c'est du coup une série dans le genre de la teen series qui vient un petit peu tirer le bilan, en quelque sorte. C'est-à-dire que, oui, elles ont 30 ans, elles jouent des ados qui en ont 13, mais bon, Luc Perry dans Beverly Hills, il avait 24 ans alors qu'il jouait un lycéen. Enfin, dans les séries pour ados pendant longtemps, et notamment celles des années 90-2000, on était plus âgés pour les rôles. Donc il y a quelque chose dans ce jeu-là qui m'a plu. Ensuite, finalement, une fois qu'on a accepté l'accord, le point de départ humoristique, finalement, on oublie qu'elles sont adultes. Absolument. Et parce que justement, ce corps qui évolue à cet âge-là, c'est extrêmement bien que ce soit incarné par des adultes. Parce que souvent, quand on est adolescent et adolescente, on a un corps de femme et dans sa tête, on est complètement gamine. Et ça fonctionne bien. C'est finalement la série pour adolescentes des années 2020, comme il y a eu Angela 15 ans en 94 qui tentait de raconter de l'intérieur ce que c'était qu'être adolescente à cet âge-là, de la même manière qu'il y a eu Skin dans un autre genre aussi en 2010, et entre les deux il y a eu Freaks and Geeks, la série de Judd Apatow, qui racontait aussi tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on peut voir aussi Pen 15 aujourd'hui, avec ce titre que je comprends pas finalement, parce que si on le réduit à ce que ça signifie ce titre, ouais, mais en fait c'est très réducteur, oui, parce que c'est pas qu'une question de sexualité, c'est vraiment ce que c'est que de vivre au collège avec ce qu'on est, ce qu'on rêverait d'être, et c'est du coup drôle, mais surtout très touchant.
Ben, c'est une quasi-unanimité pour ce dernier débat de la saison autour de Pen 15, disponible sur Canal Plus Série. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Weller, Wildwood, et c'est peu dire qu'il a fait vibrer Ariane Alla, qui était dans tous ses états. Elle était, mais cette voix magnifique.
Heureusement qu'il n'y a pas l'image.
Essayez d'organiser un petit rendez-vous. Il est quand même considéré comme un des musiciens les plus importants de la musique pop anglaise, donc ça va être un peu compliqué d'organiser un tête-à-tête,
mais on
va
tout
faire, bien évidemment. Il mène depuis 30 ans une carrière solo très diversifiée. Wildwood est extrait de son deuxième album éponyme, et pour les critiques, l'album fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Je ne sais pas si Ariane va l'écouter, mais elle va regarder très fixement la couverture.
France Inter. Une heure en série.
Il nous reste un petit peu de temps pour le plateau télé en mode recommandation pour l'été. Quelles sont les séries qui vont débarquer entre juillet et août sur le petit écran et qui nous semblent valoir un coup d'œil curieux? La règle du jeu est simple. Nous ne les avons pas vues, mais nous les attendons pour telle ou telle raison, leur sujet, leur créateur, leur casting ou tout ce qui vous semblera pertinent. Ariane Alla, vous allez regarder Stateless avec Kate Blanchett est-il besoin d'avoir un autre argument, bien sûr, pour se précipiter sur cette série en trois arguments concis? Pour quelle raison?
J'en aurais deux d'arguments,
Noé, mais
encore plus concise. Alors, vous connaissez la phrase célèbre de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais là, moi, je vous propose une petite variation, parce que c'était elle et parce que c'était nous. Pourquoi ce grand nous collectif? D'abord, pour son sujet, c'est mon premier argument, puisque Stateless raconte, en effet, s'inspire même de l'histoire vraie de Cornelia Rowe, je sais pas comment ça se prononce, c'était une citoyenne allemande qui a été illégalement détenue pendant 10 mois dans une prison en Australie. Et donc la série suit 4 étrangers coincés dans un centre de rétention en plein désert australien. Autant dire que c'est une série politique et qu'elle aborde clairement la question, à mon avis capitale aujourd'hui, des contrôles aux frontières et des droits des migrants. Ça, c'est mon premier argument. Et le deuxième argument, c'est bah, évidemment, c'est l'actrice australienne Kate Blanchett, dont on connaît le talent et les engagements. Il se trouve qu'elle est fort bien accompagnée, la charmante Kate, puisqu'il y a également Yvonne Strahovski, qu'on a vu dans La Servante Écarlate. Mmh. Il y a l'excellent Dominic West, que j'aime beaucoup également.
J'aime bien comment votre voix se dérobe quand vous parlez de Dominic West. Comme ça.
Et il y a aussi un garçon qui s'appelle Faisal Basi, qu'on a croisé dans Top of the Lake. C'était juste pour le plaisir de citer la série de Jane Campion que j'adore. Bref, que du beau monde, en somme. Autant dire que je choisis Stateless, que je n'ai pas encore vu, donc j'espère ne pas être déçue. Mais parce que c'était eux.
Eh ben, c'était un excellent choix. Voilà exactement ce que j'attendais de vous. Ariane, vous nous avez recommandé donc Stateless, qui sera disponible à partir du
8 juillet sur Netflix.
Merci beaucoup. Benoît, valeur plus refuge, on va dire, puisque vous allez nous évoquer le reboot, le remake de Perry Mason, une série des années 60.
Oui.
Où on s'endormait tranquillement devant, quand ça est passé à la télévision. Est-ce que c'est un petit peu plus péchu?
Alors non, pourquoi j'ai envie de voir Perry Mason? D'abord pour le plaisir de retrouver ce fameux personnage qui a bercé 10 ans de la télévision américaine entre 57 et 68, qui ensuite est revenu dans les années 80, toujours interprété par Raymond Burr avant qu'il soit l'homme de fer avec une barbe grisonnante. Donc retrouver ce personnage qui est avocat, qui réussit tout. Dans une version pour HBO, déjà, ça m'intrigue.
Oui.
Ensuite, parce que quand on voit les personnes qui tournent autour de cette série, il n'y a que des beaux noms. Alors déjà, les deux showrunners ont travaillé sur Friday Night Lights. Parmi les réalisateurs, un réalisateur qui a travaillé sur Boardwalk Empire. Et puis dans le casting, Matthew Rhys, qu'on a adoré dans The Americans et que l'on avait aussi adoré en tant qu'avocat californien dans Brothers and Sisters. Ça, c'est pour le casting. Ensuite, c'est au départ un roman des années 30. Et la série fait le choix de raconter Perry Mason dans les années 30. Et pas comme un avocat, mais comme un détective qui aide un avocat. Du coup, c'est intéressant parce qu'on va se dire qu'on va connaître le Perry Mason que la télévision nous a jamais montré. Voilà, moi ça m'excite, tout ça me semble passionnant, rassurant. Ça commence le 22 juin sur OCS, donc en France. Il y en aura 8 épisodes, donc on va tenir comme ça jusqu'au 10 août. Moi, ce sera mon polar de l'été.
Merci beaucoup Perry Mason, donc sur OCS. Ava, vous attendez, en ce qui vous concerne de pied ferme, la série P-Valley. À la lecture du sujet, on comprend vite ce qui interpelle la libertine que vous êtes.
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Alors, elle est prévue le 12 juillet prochain sur la chaîne câblée payante américaine Starz. C'est une création de Katori Howell, l'adaptation pour la télévision de sa pièce de théâtre intitulée Pussy Valley, qui nous entraîne dans les coulisses d'un club de striptease installé dans le delta du Mississippi.
Non,
oui, je m'autotais. D'après ce que j'ai compris, on va s'intéresser à la fois à celles et ceux qui travaillent dans ce club, mais aussi à certains clients qui en poussent la porte régulièrement. Donc ça promet d'être sexy, vénéneux. Au vu des premières images, c'est un mélange entre un clip un peu bimbling et un film noir. Faut donc voir ce que ça peut donner, mais sur le papier, j'avoue que ça titille ma curiosité. Au casting, une majorité d'acteurs noirs américains, des acteurs encore méconnus et d'autres aperçus dans d'autres séries, comme Shannon Thornton, qui était dans Dynasty, par exemple. On en parlera peut-être à la rentrée, si c'est à la hauteur. Et quant à moi, je vous dirai si je me suis lancée dans le pole dance ou pas.
Et on voudra évidemment une démonstration.
À la rentrée, oui.
Pussy Valley, donc, sur...
Sur Starz.
Très bien. Quant à moi, je me risque à vous recommander Lovecraft Country, qui est prévu pour courant août sur OCS. On n'a pas de date précise de diffusion. Pourquoi est-ce que je vous la recommande? D'abord, les créateurs, Misha Green, qui est une showrunneuse extrêmement intéressante. Elle a travaillé sur Helix, sur Sons of Anarchy, Gigi Abrams, c'est-il besoin de le présenter. Mais surtout Jordan Peele, auteur au cinéma de Out et de Us, et producteur du reboot de la 4e dimension, un spécialiste émérite de l'horreur politique engagée et militante. Deuxième raison, le contexte historique. Nous sommes dans les années 60, avec la ségrégation ségrégation, le racisme légalisé, les Noirs traités comme des citoyens de seconde zone, moins considérés que des animaux. L'histoire, enfin, une adaptation du roman éponyme de Matroff que je vous recommande, je viens de le finir, sorti chez 10-18 récemment, un jeune Noir vétéran de la guerre de Corée et Green Book en poche parcourt l'Amérique à la recherche de son père. En route, il croise à la fois des suprémacistes blancs et des créatures infernales. Reste à savoir lequel de ces monstres seront les plus dangereux. Réponse cet été, on en reparle à la rentrée, on le programmera bien évidemment. Voilà, une heure en série, c'est fini pour ce soir et hélas pour deux longs mois. Mille merci à vous trois d'y avoir participé. Comment vous faites? Ben vous allez dans votre salle de bain, vous vous regardez dans le miroir et vous vous contredisez. Voilà. Vous interrompez. Enfin voilà, je vais vous montrer. Moi je le fais tous les jours. Encore une fois, surtout merci, merci, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté et d'en avoir assuré le succès par votre fidélité. Ce soir, nous vous avons recommandé ou pas The Great sur Stars Play, Dans les bois sur Netflix et Pen 15 sur Canal+. Je vous invite à retrouver demain soir à 20h Jérôme Garcin et toute son équipe de critiques pour un Masque et la plume consacré à la littérature. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, le site internet. Envoyez-nous du courrier, on sera ravis de pouvoir le lire à nouveau à la rentrée. Une émission qui doit tout, et je pèse mes mots, à ces trois drôles de dames. J'ai nommé la magicienne Marie-Annick Rimbaud à la réalisation. Bravo Marie-Annick! La virtuose Muriel Pérez à la programmation musicale et enfin l'indispensable Amel Kaldi qui m'aide chaque semaine à préparer cette émission. Elles sont juste géniales et merci à elles. N'oublions pas la technique ce soir sans lesquelles nous ne serions pas grand-chose. Marie Le Peintre, Christophe Smiez et Charles Le Sestre.